matin. On va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc et faire une lecture dans le chapitre 9 à partir du verset 28. Ce matin, j'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire de la part du Seigneur et j'ai intitulé ce message « Savoir gérer le sentiment de déprime » et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Luc 9, à partir du verset 28, « Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Ô maître, il est tellement bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Est-ce que je peux vous poser ce matin question très simple? Qui est-ce qui n'a pas parmi nous prononcé des paroles telles que celles-ci? J'ai le moral au plus bas. Je suis cassé, assommé, effondré, épuisé, déçu, écœuré, abattu, lassé, refroidi. C'est fou! Mais vous savez ce que sont toutes ces expressions? Ce sont des synonymes du mot découragé. Je me suis penché dans le dictionnaire, j'ai voulu voir au mot découragé les synonymes, et bien c'est tout cela. Alors chaque fois que nous avons prononcé une de ces paroles, c'est que nous avions vraiment le moral dans les chaussettes. Hein. Le moral était très bas, mais nous avons tous, vraiment tous, un jour ou l'autre, connu cela. En fait, je voulais vous dire ce matin que en tant qu'être humain, on connaît le découragement, il n'y a pas de problème, mais le découragement s'exprime dans notre âme par une foule d'émotions négatives lorsque, écoutez bien mes frères et sœurs, lorsque des obstacles viennent contrecarrer nos projets, nos visions, nos rêves et notre avenir. Et je me suis penché un petit peu dans la réflexion sur certaines causes qui engendre le sentiment de déprime dans notre vie. Je vais vous en donner quelques-unes, mais vous verrez, c'est normal. Lorsque nous avons l'incertitude du lendemain, le sentiment de déprime entre dans notre cœur. Nous avons besoin, en tant qu'être humain, à être rassurés. C'est très important. Si nous ne sommes pas rassurés, nous allons vraiment être déprimés. Les difficultés et les épreuves génèrent ce sentiment de déprime dans l'âme humaine. La rupture d'une relation que l'on croyait solide, que l'on croyait établie, lorsqu'il y a rupture d'une relation, ça engendre évidemment des sentiments mauvais dans notre cœur. Il y a les relations tendues. Quand nous avons des relations tendues avec soit notre conjoint, soit avec nos enfants, soit avec des amis, soit avec le pasteur, soit avec l'Église, cela génère inévitablement un sentiment de déprime. Il y a aussi les difficultés financières. Si vous vivez dans la galère financière, c'est sûr que quelque part, le sentiment de déprime risque d'arriver. Le vieillissement, la maladie sont aussi des facteurs qui donne naissance au découragement dans notre vie. le retard dans l'exaucement de nos prières. Ah oui, ça, c'est très courant dans l'Église. Nous prions, et comme le Seigneur n'exauce pas dans la minute où nous avons prié, nous laissons entrer le découragement. Tout à l'heure, quand on louait le Seigneur, il me revenait une pensée, et je ne sais pas si c'était pour quelqu'un ou si c'était pour moi, mais je vous la donne, tout simplement. Le Saint-Esprit disait à mon cœur, ne regarde pas ou ne regardez pas comme l'a fait Élie lorsqu'il se croyait seul. Dieu lui a dit, mais mon petit gars, tu n'es pas seul en Israël, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant l'idole Baal. Voyez-vous, il avait un sentiment de déprime, Élie, dans son âme, parce qu'il se croyait seul. Alors oui, le retard dans nos prières, parfois, peut justement engendrer un sentiment de déprime. Et surtout l'absence de but. Si vous êtes sur la terre et que vous n'avez aucun but, vous allez laisser votre âme s'ouvrir à la dépression. L'être humain est fait pour avoir des buts. Et c'est pour ça que Jésus nous donne un but inaccessible dans notre vie, c'est le ciel. Il met devant nous le ciel. Et ensuite, sur la terre, eh bien, nous avons une multitude de buts. Mais croyez-moi, un jour, on entrera au ciel. Mais ce qui met dans notre cœur, c'est l'espérance de son retour. Un chrétien qui a l'espérance du retour de Jésus peut vaincre, peut dominer, peut contrôler, peut abattre le sentiment de déprime qui vient dans son cœur. Je vais même vous dire, même le regard que nous portons sur les gens du monde, nous, chrétiens, un petit peu comme l'a fait notre frère Asaph, dans le psaume 73, il dit que son âme fut abattue quand il voyait la prospérité des méchants. Lui, il se consacrait à Dieu, alors il devait certainement avoir de l'opposition spirituelle dans sa vie, mais il voyait les gens qui n'aimaient pas Dieu, se moquant de Dieu, prospérer, prendre de l'embonpoint, arriver à la blanche vieillesse, et rien ne leur arrivait. Le regard que nous avons sur les gens du monde, le regard que nous avons sur les gens qui nous entourent, si notre, Jésus l'a dit, si ton œil n'est pas en bon état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Comment voyez-vous les gens du monde? Vous les enviez? Ben, je vous garantis qu'il ne faut pas les envier. Parce que s'ils ne sont pas croyants, un jour ils vont être littéralement fauchés. Et c'est ce qu'on s'aperçoit. Dans la vie de certaines personnes, on voit telle et telle personne à la télévision, puis du jour au lendemain, elle n'existe plus. Elle a été fauchée. Et vous croyez qu'on se souvient d'elle? Pensez-vous, si les artistes ne faisaient pas de la publicité et ramenaient à la surface les disques et les clips vidéo qu'ont fait ces artistes-là, ils sont zappés de notre vie. On passe à autre chose. Certaines paroles, enseignements, ou prophéties peuvent aussi provoquer le découragement, voire même l'abattement chez des milliers de chrétiens et chez les meilleurs chrétiens. Si quelqu'un se présente dans une église et vous annonce que le monde entier va se réveiller pour Jésus, alors croyez-moi, on va tous être déprimés. Parce que regardez, quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, les gens semblent, ils vous écoutent même pas. Aujourd'hui, le monde de l'argent, le monde, le pouvoir du plaisir est tellement présent dans la vie des hommes que quand vous parlez de Jésus, il y a un petit sourire sur le coin du visage, ils n'en ont rien à faire. Il faut la grâce de Dieu, il faut l'intervention du Saint-Esprit pour secouer l'âme humaine. Il y a des prophéties qui ont fait beaucoup de mal. Si vous êtes malade, que quelqu'un vous impose les mains en vous disant « Mon frère, le Seigneur ou ma sœur, le Seigneur te dit, je vais te guérir entièrement. » Mais qu'à bout de 20 ans, tu n'es pas guéri, il y a un problème. Vous mettez dans le cœur de ces braves gens, de ces braves chrétiens, un sentiment de déprime. Dieu aime plus les autres que moi. Et vous tombez. Il y a des enseignements qui sont des paroles que la Bible nous dit, des paroles de vie ou des paroles de mort. Il faut faire attention. Il faut encourager, mais jamais donner un chèque en blanc. Jamais promettre ce que Dieu n'a jamais promis. Vous voyez, c'est ça, ça engendre la dépression. Nos apôtres ici, le verset 28, il est quand même très important. Après avoir dit ce discours et ces paroles, Jésus a pris ses apôtres et il les a fait monter sur une montagne. Mais quand vous lisez le contexte avant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a détruit chez eux tout le sentiment messianique. Eux, ils pensaient que Jésus, étant le Messie, allait chasser les Romains, s'installer à Jérusalem, à entrer dans le temple de Dieu et qu'Israël allait retrouver sa gloire. Jésus a sapé tout ça. Et ils étaient tout tristes. Ils étaient tout tristes. Alors voyez-vous, si nous aussi nous acceptons des enseignements, des paroles, des doctrines qui sont en dehors de la Bible, je vous en donne quelques exemples, comme l'évangile de la prospérité, nous devons tous être riches, eh bien, on ne peut pas prêcher l'évangile dans les pays pauvres. Non, voyez-vous, si on croit à un tel évangile, ça va engendrer de la déprime parce que les gens vont prospérer sur les crédits et sur les banques. Si c'est ça la prospérité, les Américains, qui sont des champions en matière de prospérité, sont des gens qui sont endettés à 150% par foyer. Et ils vous disent, Dieu nous fait prospérer. Mais non, c'est le Covid-10. Et toutes les autres banques. Si c'est ça la prospérité, alors c'est un mensonge et je vais déprimer. Seigneur ne nous promet pas ces choses. Si on vous promet la santé à 100%, aussi là on va avoir la déprime qui va arriver. La délivrance du péché par un ascétisme rigoureux. Je jeûne, je me meurtris pour ne plus laisser le péché s'épanouir en moi. Si vous croyez un tel truc, mais vous allez vous démoraliser. Parce que quel est le niveau de sainteté qu'il faut atteindre? Quelle est la barre? Non. Si vous croyez aussi, comme moi je l'ai cru pendant des années, à la doctrine de la seconde expérience spirituelle, ce que les gens appellent couramment le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand vous êtes né de nouveau, il y a encore une deuxième expérience que vous devez vivre. Et tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne rentrez pas dans le plein évangile de Jésus. Si vous croyez cela, vous allez déprimer. Vous allez déprimer. Mais si vous croyez ce que dit la Bible, nous avons tous été baptisés dans le même esprit et nous avons tous, notez bien le tous, hein, que dit Paul aux Corinthiens, était abreuvé du même esprit. La responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, c'est d'être constamment, nous, remplis de l'esprit, c'est-à-dire veiller vraiment sur notre vie et sur nos travers pour ne pas perdre ce remplissage. Si nous sommes séduits par les expériences que l'on appelle extrasensorielles, la poudre d'or, les parfums, les dents en or, vous allez courir à droite et à gauche, mais comme vos dents ne seront pas changées en or, vous savez, je vais vous dire quelque chose, j'ouvre une parenthèse, je n'en croyais pas mes oreilles. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai entendu un jour un homme qui a demandé à certaines personnes de la foule d'enlever leurs diamants, leurs bagues en diamants, de les déposer devant lui, il allait prier. Si vous aviez une bague de 10 carats, elle allait devenir à 30 carats. Mais quand vous arrivez à croire de telles choses, mes frères et sœurs, mais vous êtes déprimés. Vous n'avez plus besoin d'aller bosser, hein. Vous allez amener devant le prédicateur vos soucis et ainsi, vous allez perdre courage. Et la déprime va entrer. Non, les expériences extrasensorielles sont très dangereuses, très, très dangereuses. Moi, je l'ai vécu dans une communauté. Je l'ai vécu dans une communauté en Suisse où j'ai vu des gens qui tombaient par terre, qui étaient soi-disant remplis du Seigneur. Et trois jours après, elles étaient totalement déprimées. Je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, mon frère, c'est ça le remplissage de l'esprit que tu promets aux gens? Tu pries pour eux le dimanche et deux jours après, ils sont dans une déprime pas possible. Alors, j'en veux pas. Voyez-vous, il faut faire attention. Ces choses-là, nous devons veiller, nous dit la parole de Dieu. C'est parce que le peuple de Dieu le peuple juif n'a pas veillé sur les vérités de Dieu, qu'il a eu peur d'entrer en Canaan. C'est parce que Josué, après la défaite devant Haï, il a perdu courage. Parce qu'il s'est dit, je ne comprends pas, Dieu m'envoie conquérir le pays, puis la deuxième ville, qui est tout petite, on n'arrive pas à la conquérir. Voyez-vous, si nous acceptons n'importe quoi, n'importe quelle parole, n'importe quel enseignement ou n'importe quelle prophétie, vous aurez à un moment donné à faire face au sentiment de déprime, parce que vous allez vous dire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, le thème de mon message est simple ce matin. Comment gérer ce sentiment de déprime, ou ce que nous appelons couramment le découragement? Voyez-vous, frères et sœurs, le diable a lancé dans le jardin, dans le paradis terrestre, dans le jardin d'Éden, il a lancé une parole terrible qui aujourd'hui est encore à l'œuvre dans l'humanité. Il a dit à Adam et Ève, si vous mangez du fruit que Dieu vous a interdit, vous serez comme Dieu. Et ça a été le plus grand mensonge qu'il a pu donner à l'humanité, parce que nous ne sommes pas comme Dieu. Et en plus, Dieu ne connaît pas la déprime. Ça a été un mensonge terrible. Dieu n'est jamais déprimé. Dieu n'est jamais surpris. Les cachets n'existent pas dans le royaume de Dieu. Les cachets pour maintenir, disons, notre cerveau dans le calme n'existent pas. Dieu est un Dieu qui ne connaît pas le sentiment de déprime. Et quand il vient en nous, il veut nous aider justement à régler ce problème. Jésus a dû se... Donc on en a parlé, je ne vais pas m'étendre ce matin, mais on en a parlé. Jésus a dû s'incarner dans une chair comme nous pour connaître, comprendre la source de la dépression et nous montrer comment gérer avec efficacité. Alors, avant de vous donner trois précieux conseils que j'ai trouvés dans ce texte que nous avons lu ensemble, je voudrais vous montrer deux éléments déclencheurs dans le sentiment de découragement que vous pouvez ressentir, ce qu'on appelle la déprime. Le premier sentiment déclencheur, c'est le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Chaque fois que vous avez le sentiment d'avoir perdu soit l'amour de Dieu, parce que vous avez fait quelque chose qui ne va pas, soit l'estime de vous-même, soit la valeur que vous avez de votre propre personne, à chaque fois que vous avez ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, la déprime arrive au grand galop. On ne perd rien dans le Seigneur. Nous sommes en lui et on ne perd absolument rien. Que nous nous sentons bien ou que nous nous sentons mal, il est toujours, toujours avec nous. C'est ça l'évangile précieux de Jésus. Et le deuxième élément déclencheur de la déprime, c'est le sentiment de la récompense. C'est très important ce que je vous dis. Parce que nos actes, si au bout d'un certain temps, nos actes et nos comportements ne nous rapportent pas la récompense escomptée, nous serons découragés et même abattus. C'est ce qu'a fait le frère aîné du fils prodigue. Je te sers depuis tant d'années et pour moi, tu ne fais pas la fête. Il travaillait pour Dieu avec le sentiment de la récompense. Tout est grâce. Son frère, il s'en va de la maison. Il mange tous les biens qu'on lui a donnés. Et en plus, il le fait dans une situation catastrophique. Il s'est souillé, il a meurtri son âme. Puis il revient, et quand il revient, il voit les bras tendus de son père. Le pardon lui a accordé. Il lui redonne la robe blanche. Il lui redonne l'anneau de l'autorité de la maison. Il lui met des sandales aux pieds. Et il dit à ses serviteurs, tuez le veau gras, faisons la fête, car mon fils qui était mort, il est vivant. Et l'autre, il arrive en disant, mais moi j'ai bossé. Quand vous avez le sentiment de la récompense et que vous n'obtenez pas par vos actes, je vous prends un exemple, si vous aimez les chrétiens, si vous les visitez, si vous les entourez de soins et que vous n'avez pas la récompense en retour, vous allez déprimer, vous allez dire « j'y vais plus ». Si vous faites cela, vous ouvrez la porte à la déprime. Faites-le comme pour le Seigneur, faites-le par amour pour le Seigneur. Mais jamais avec le sentiment qu'on vous doit quelque chose. Jésus a donné une clé dans l'évangile. Si tu veux que quelqu'un si tu veux être heureux, invite quelqu'un qui n'a pas les moyens de te le rendre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne t'attends pas à la récompense. Quand vous êtes dans le sentiment de la récompense, vous êtes dans le triangle dramatique. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est dramatique. C'est le sentiment de la récompense. Asaf disait, tout à l'heure on en parlait, à quoi cela me sert-il de me sanctifier ? Asaf, il se consacrait à Dieu. Asaf, il venait fidèlement dans la maison du Seigneur. Il donnait fidèlement son argent. Il était à toutes les rencontres. Il était un homme formidable. Puis un jour, quand son regard s'est perdu justement sur les gens du monde, il a commencé à dire, « Mais moi, je n'ai pas la récompense de ma consécration !» Et voilà pourquoi il fut abattu dans son âme. Ce sont deux éléments déclencheurs. Ne les oubliez jamais. Le sentiment d'avoir perdu quelque chose et le sentiment de la récompense. Examinez-vous quand vous n'êtes pas bien. Pourquoi vous n'êtes pas bien ? Vous vous en voulez ? Vous attendiez une récompense ? Analysez correctement votre cœur. Alors, je termine ce matin par trois précieux conseils qu'on trouve dans ce texte, parce que Jésus n'a pas fait les choses par hasard. Les disciples étaient complètement découragés, et Jésus va faire quelque chose de particulier. Il va les faire monter sur la montagne de la transfiguration. Alors, dans le passage que nous avons lu ce matin, nous trouvons trois précieux conseils pour traiter efficacement le sentiment de déprime. Le premier conseil, choisissez bien vos fréquentations. C'est quand même étonnant. Parmi tous les disciples, seuls Pierre, Jacques et Jean furent autorisés par Jésus à assister à la résurrection de la fille de Jaïrus, à la transfiguration et à l'agonie de Jésus dans le jardin. Pourquoi ? Eh bien, je crois qu'il y avait dans le tempérament de ces trois personnages, il y avait un enthousiasme qui pouvait se transmettre aux autres. Jésus n'a pas pris avec lui tous les disciples. Il a pris des gens qui ont une faculté, une capacité de communier avec les autres et de leur transmettre. Regardez l'apôtre Pierre, c'est un zélé, c'est un bouillant. Jacques, pareil. Et Jean aussi, ce sont des gens qui ont vécu, ils ont transmis à leurs contemporains un potentiel extraordinaire. Il y a malheureusement des personnes qui ne sont pas promptes à relever ceux qui sont abattus. Si vous êtes abattu, n'allez pas voir quelqu'un qui est abattu. Hein. Je vous ai raconté cette histoire qui est arrivée aux États-Unis. Un policier qui avait un tempérament très bas, un homme avec une fragilité psychique, qui vivait dans ce sentiment de déprime. Il a rencontré un jeune homme sur un des ponts à New York. Ce jeune homme lui a vidé son cœur, lui a raconté tous ses malheurs. Il s'est vidé, et vous savez ce qu'ils ont fait tous les deux ? Ils ont sauté du pont. Allez voir des gens qui vont vous encourager. N'allez pas voir des gens qui vont vous écraser. Jésus nous montre au travers de cet exemple, eh bien, il n'a pas choisi n'importe qui. Le pessimisme est parfois très, très contagieux. Je vous donne un exemple, enfin deux exemples dans la Bible. Regardez ce qui est arrivé quand les 12 espions sont partis visiter le pays promis. Ils sont tous revenus avec le même récit. Ils ont vu les mêmes choses. C'est vrai ou pas vrai ? Et sur les 12, 10 ont dit au peuple, « Ah, alors ça c'est vrai qu'on a vu des choses formidables, mais n'y allez pas les gars. Hein. Il y a des géants, il y a des problèmes, ils sont armés. En plus, ils nous font, quand je les ai regardés, on se considérait comme des sauterelles devant eux. On se sentait tout petit, ils ont démoralisé tout le peuple juif. » Il n'y avait que deux, Josué et Caleb. Ils n'ont pas réussi par leur enthousiasme et leur foi, ils n'ont pas réussi à faire changer le cœur des Israélites. Donc quand vous avez dans votre cœur ce sentiment d'abattement, eh bien allez voir des personnes appropriées. Souvenez-vous des compagnons de Job. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, Job a été malade d'une manière particulière. Il a vraiment pas eu de peau, hein. Il était un homme très riche, il a tout perdu, sa fortune, il a perdu ses enfants sont morts, il a perdu ses troupeaux, il a perdu l'estime de ses amis. C'est incroyable, hein ? Et ses compagnons les plus proches sont venus lui dire, de toute manière, Job, tu as un péché caché. Il n'y a pas photo. T'es malade, c'est parce que t'as péché. Ils n'étaient pas tellement propres à le relever, hein ? Ils n'étaient pas là pour le relever. Même sa femme lui a dit, écoute Job, ça suffit, hein. Maudit Dieu et meurt. Assez radical, hein. Ça ne vous redonne pas le moral d'aller voir des gens comme ça. C'est le premier point que je voulais vous dire, parce que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Allez voir des chrétiens, des chrétiennes qui sont... J'aime pas le mot positif parce que ça rentre pas dans le contexte, mais qui sont des gens qui, malgré les difficultés, vont vous élever, vont vous encourager, vont vous taper sur l'épaule et vous dire « Allez, on va ensemble, c'est pas grave, t'as le sentiment de déprime, mais je suis avec toi et je vais prier pour toi. » Le deuxième point que Jésus a fait faire à ses disciples pour leur apprendre à gérer le sentiment de déprime, c'est qu'il leur a fait faire de l'exercice physique. Oh, dans nos versions, il ne nous est pas expliqué ce qu'était la montagne, mais c'est la montagne de l'Hermon. Vous savez que la montagne de l'Hermon, elle cumule à plus de 2000 mètres. Ils ont fait un voyage de plus de 7 heures. C'est pas étonnant que les disciples étaient assoupis. Eh bien ça, c'est un remède extraordinaire que je vous donne. Vous êtes déprimé, vous n'êtes pas bien dans votre âme, faites de l'exercice. Sortez, marchez, faites du vélo, faites du ping-pong, je ne sais pas, faites ce que vous voulez, mais sortez à oxygéner votre vie. C'est un des conseils extraordinaires. Je dirais que c'est même un des plus précieux médicaments que Jésus nous donne ici. Ses disciples venaient d'avoir un coup sur la tête. Ils venaient de perdre tous leurs espoirs messianiques. Ils étaient abattus, tristes. Il leur fait faire l'exercice physique. C'est le meilleur des médicaments. Quand tu as bien marché, tu t'endors paisiblement avec le Seigneur. Quand tu fais que tu te aères, c'est très important. Oui, ils ont fait 7 heures pour monter jusqu'à 2000 mètres. Et enfin, je termine par le dernier point qui est important. C'est que nous devons méditer sur les événements de la transfiguration. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur cette montagne et il ne faut pas qu'on l'oublie, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Deux événements importants sont à prendre en compte sur la montagne de la transfiguration. Le premier, c'est que Jésus possède le don de l'ubiquité. Vous savez ce que c'est que l'ubiquité ? Ben, je vais vous le dire, je vais vous l'apprendre. C'est très simple, c'est la faculté d'être à plusieurs lieux à la fois. Sur la montagne, Jésus nous révèle quelque chose de très important pour nous chrétiens. C'est qu'il est Dieu et il a un pied sur la terre et un pied au ciel. Il est partout à la fois. Alors que nous, ce matin, nous sommes ici dans l'avenue de Bussé, je ne peux pas être à Vichy. C'est pas possible. Physiquement, je peux pas l'être. Oh, peut-être dans mon esprit, je peux me retrouver à Tahiti ou sur le lieu de vacances que j'ai vécu il y a pas longtemps. Je parle pour ceux qui sont revenus il y a très peu de temps. On peut encore se revoir sur la plage en train de griller avec le monsieur qui passe en disant « Qu'est-ce qu'il veut des chichis ou des glaces ?» On peut, hein, ça peut, mais physiquement, vous êtes là, vous pouvez pas être ailleurs. Jésus a la possibilité d'être partout à la fois. Cette vérité est importante car il avait un pied sur la terre et il avait un pied dans le ciel. Jésus possède le don de l'ubiquité et ça, c'est extraordinaire. Chaque fois que vous l'appelez, chaque fois que vous criez « Seigneur, je ne suis pas bien dans mon âme », Jésus met un pied, quitte le ciel et vient sur la terre. Il l'a dit, je vous le prouve par la Bible, le mot « consolateur » que Jésus a employé au sujet du Saint-Esprit. Ça veut dire celui qui répond à nos cris de détresse. Celui qui vient à notre secours, à notre cri, à nos cris de détresse. Alors chaque fois que vous avez un sentiment de blues dans votre vie, eh bien n'oubliez jamais, dites au Saint-Esprit, je vais pas bien. Mais comme tu as la possibilité de quitter ton ciel et de venir sur la terre, c'est ce qu'il a montré aux disciples. Moïse et Élie étaient là. Ils étaient dans la gloire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est entré comme ça dans la gloire. Nous, on ne peut pas. Hein ? Mais lui, il est entré. La Bible dit que ses vêtements sont devenus des vêtements, mais d'une blancheur incroyable. Plus que la clarté du soleil. On ne peut pas imaginer ce que les apôtres ont vu. Jésus était sur la terre et Jésus rentre dans la gloire. Mais c'est un enseignement pour nous extraordinaire. Il veut nous dire tout simplement, notre Seigneur, qu'il est venu sur la terre, il est reparti au ciel, mais il est toujours, il transcende toujours notre humanité. Il est là avec nous. Ne l'oubliez jamais, quand on n'est pas bien dans notre âme, c'est pas Jésus qui vous quitte, c'est vous qui le quittez généralement. Et lui vous abandonne Jamais. Et il y a un deuxième facteur que nous devons prendre en considération sur cette montagne, c'est que le sentiment de déprime que vous pouvez de temps en temps ressentir ne vous privera jamais de la communion avec Dieu ni de la manifestation de sa gloire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les deux personnages qui sont arrivés devant Jésus, ils s'appelaient Moïse et Élie. Ce sont deux personnages qui, dans la Bible, étaient des dépressifs, des gros dépressifs. Moïse a été un homme dépressif. Quant à Élie, je ne vous raconte pas son histoire, vous la connaissez, il a demandé la mort. Il était un homme dépressif. C'est très encourageant pour nous. Parce que chaque fois qu'on est dans un sentiment de découragement, on se dit, oh ben, de toute manière, Dieu, il ne m'écoute pas. Hein. Son ciel est fermé pour moi. Et je ne peux pas voir sa gloire dans ma vie, encore le sentiment de la récompense, vous voyez ? On est toujours dans ce sentiment de récompense. Non, Dieu vous aime, et Dieu veut vous bénir, et Dieu veut vraiment descendre et vous faire du bien. Et il vous le montre ici, ce sont des hommes, ces serviteurs de Dieu, ces deux grands serviteurs de Dieu, ont connu des moments de dépression, de découragement et d'abattement, mais sans que leur communion avec Dieu ne soit interrompue, ni que Dieu les abandonne. Ils n'ont jamais été abandonnés de Dieu. Un chrétien, j'ai entendu un jour une parole qui est vraiment triste, hein, mais les gens disent qu'un chrétien ne doit jamais connaître la dépression. Quand vous entendez de telles paroles, ça vous met dans la dépression. Moi, quand j'ai entendu de telles paroles, je me suis dit, mais c'est terrible. Parce que c'est quoi être chrétien ? C'est être un homme pécheur sauvé par grâce. Voilà ce qu'est être un chrétien. Et nous allons vivre comme les païens. Et nous allons avoir des moments de joie, des moments intenses de bonheur. Puis nous allons avoir des moments de tristesse, des galères, des moments où le diable va profiter justement de notre faiblesse pour nous priver de la joie et de la paix de Dieu. Il veut accentuer dans nos cœurs ce sentiment de déprime. Et moi, j'ose vous le dire, et c'est enregistré, et je le dis très clairement, un chrétien, oui, peut connaître et connaît très souvent des moments de dépression et de déprime. Je suis là, présent pour vous dire que c'est vrai. Mais j'ai toujours invoqué celui qui a le don d'ubiquité. Et je lui ai dit, Seigneur, viens m'aider. Et il est venu m'aider. J'ai dit, Saint-Esprit, je crie à toi, viens m'aider. Je ne sais pas comment sortir de ce problème. Et quand j'ai compris qu'il ne fallait pas que je m'attende à une récompense dans certains moments, de ma vie, je voyais ce sentiment de déprime fondre devant le soleil de Dieu. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs ? Que nous connaîtrons donc tous des sentiments de déprime, parce que de nombreux obstacles vont se dresser devant nous, et notre adversaire, le diable, cherchera à utiliser nos moments de faiblesse pour nous pousser à abandonner nos devoirs envers Dieu, envers notre prochain et envers nous-mêmes. Je vais même vous dire une chose, quand des chrétiens prennent des vacances, eh bien, il y en a certains qui prennent des vacances avec la culpabilité dans le cœur. Ça peut paraître dingue ce que je vous dis, mais il semblerait que nous, chrétiens, on n'a pas le droit de partir en vacances, et encore moins le pasteur. Mais d'où ça vient ? Ça vient qu'on se dit, si je ne suis pas vraiment là au Seigneur, devant le Seigneur à 100% de l'année, alors je ne serai pas béni. On se culpabilise, on se traumatise. Je ne vous encourage pas à ne pas venir au culte, vous comprenez très très bien ma pensée. Mais il y a des moments où vous avez besoin de prendre du repos, eh bien il faut prendre du repos. Là où je suis contre, ce sont ceux qui prennent du repos excessivement et qui ne se consacre plus pour le Seigneur. Là, c'est un danger. Mais le repos, c'est Dieu qui l'a voulu. Et je vous l'ai dit, l'homme a commencé sa première journée d'homme dans le repos. Et quand un chrétien naît de nouveau, la première chose que Dieu lui donne, c'est son repos. Et nous avons besoin de nous reposer. Alors c'est important. Parce que le diable veut vraiment nous enlever nos responsabilités, il veut nous culpabiliser. Et devant la montagne de nos sentiments négatifs, Jésus donc nous a proposé ce matin de gravir une autre montagne. Une montagne en compagnie de personnes dont l'enthousiasme est capable de nous relever. faites bien attention à vos fréquentations. En faisant de l'exercice physique, en réalisant que notre Seigneur répondra toujours à nos appels, car il possède le pouvoir de l'ubiquité, être partout en même temps et pour tout le monde. C'est parce qu'il est Dieu qui peut faire cela. Et en prenant conscience que la dépression, le découragement ou l'abattement ne nous privent absolument pas de la communion avec Dieu, ni de son aide, et encore moins de sa gloire éternelle. Mes frères et sœurs, il faut comprendre cela. Parce que Jésus nous sauve et on est quand même humain, dans un corps humain. Et il nous dit, je vais vous apprendre. Il a dit à ses disciples, vous n'êtes pas bien dans votre âme parce que votre sentiment messianique vient d'être détruit. Je vais vous montrer comment vous pouvez gérer la dépression. Venez avec moi. Et il les a conduits sur la montagne de la Transfiguration. Et là, ils ont vu des choses extraordinaires. Et croyez-moi, une fois qu'ils sont redescendus dans la vallée, hein, après que le Seigneur est ressuscité, hein, quand ils sont partis prêcher, ces gens-là allaient encourager leurs frères et leurs sœurs. Ils étaient des gens formidables. Il y en a un qui s'appelait dans la parole de Dieu, fils d'exhortation. C'est beau, hein ? Celui-là, vous alliez chez lui, il avait le sourire. Vous arriviez en disant, je suis pas bien. Pas grave, ma sœur, c'est pas grave, mon frère. Allez bien avec moi. On va aller devant la parole de Dieu. Et voilà que cette personne encourageait et faisait du bien. Faites la même chose. Si vous n'êtes pas bien, ne cherchez pas à aller entendre les gens autour de vous qui ne sont pas bien, parce que vous aurez deux fois plus de déprime. Mais allez voir des gens qui, malgré les difficultés de la vie, sont toujours en train de dire, mais accroche-toi, le Seigneur est fidèle et je vais prier avec toi et je vais t'aider. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, on te remercie ce matin parce que, Seigneur, tu as voulu nous apprendre comment gérer le sentiment de déprime que parfois nous ressentons dans notre âme. Seigneur, aide-nous à comprendre que c'est simplement humain. Nous vivons des choses dans notre corps, dans notre tête et dans notre âme, exactement comme les apôtres les ont vécues. Il est même dit au sujet d'Élie qu'il était un homme de la même nature que nous, pour nous montrer que lui qui a fait tomber le feu du ciel a connu des moments de dépression. Il y en a d'autres, comme Jonas, comme David, qui parlait à son âme parce que son âme s'abattait au-dedans de lui, Seigneur. Oui, un chrétien peut connaître des moments vraiment de dépression. Mais ce matin, tu nous as montré la voie à suivre. Tu nous montres, Seigneur, que nous pouvons t'appeler à tout moment, car tu viens du haut de ton ciel, tu réponds à nos prières et tu viens nous secourir. Seigneur, merci, aide-nous à entrer en contact avec des frères et des sœurs et qui sont susceptibles de nous aider dans des moments difficiles. Et surtout, aide-nous à faire de l'exercice physique aussi. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que dans la parole, des moments de dépression n'ont jamais, jamais privé ces hommes de Dieu de la communion avec toi. C'est très réconfortant pour nous, parce que souvent on se culpabilise soi-même. On n'a des fois même pas besoin du diable. C'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Seigneur, ce matin, oh, relève-nous, nous qui sommes peut-être un peu dépressifs, nous qui, Seigneur, sommes abattus pour diverses raisons. Merci ce matin de nous relever par le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, ta parole est bonne, ta parole est vraie. Alors que ce matin, mes sœurs et mes frères qui ont été touchés par ce que j'ai dit puissent réaliser que tu les aimes malgré leur moment de déprime. Tu es avec eux, tu ne les abandonnes jamais, mais tu veux leur apprendre à gérer cela. Seigneur, souvent on demande la prière pour qu'on ne ressente plus la déprime. C'est une mauvaise prière. Tu nous dis, je vais vous apprendre à gérer toutes les émotions afin que vous soyez spirituels et que le naturel, l'homme charnel soit dominé par la vie de l'esprit en vous. Je remets mes frères et mes sœurs à ta grâce ce matin et je prie pour que ce message travaille leur cœur et puisse aider tous ceux qui vont l'écouter. Je le demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur de gloire. Amen. Amen.